Bienvenue au Polysécur épisode PME. Cette semaine, j'ai un grand, grand, grand panel. C'est vraiment chouette. J'ai Julien, Sylvie, Nicolas et Dominique.
Comment allez-vous?
Bien, toi.
Bien, et toi?
Super bien.
Et on fait un spécial justement parce qu'on a invité Julien à parler des médias sociaux. C'est très important. Ça a une place primordiale chez beaucoup de PME ou des solopreneurs. Pour certains, c'est même une source de revenus importante. Par ailleurs, il y a des problèmes associés avec ça. Puis justement, on va aborder, puis je vais laisser mes contributeurs échanger sur le sujet.
Oui, bien en effet, d'abord, merci de l'invitation. Mais oui, c'est vrai que les médias sociaux, ou réseaux sociaux, tout dépendant comment vous voulez l'appeler, c'est rendu omniprésent parce que toutes les compagnies en ont, autant des solopreneurs comme les plus grosses compagnies. Les particuliers aussi, ils ont tous leur compte Facebook, compte Instagram pour parler avec leurs amis, mais personne ne les protège. Globalement, si on peut, ou presque personne, on va quand même donner le féliciter certaines personnes qui le font, mais oui, globalement, c'est rendu omniprésent. Et souvent, c'est la dernière chose auquel on pense à sécuriser. Le compte de banque, on commence à comprendre que c'est important. Courriel aussi, mais réseaux sociaux, c'est comme si c'est du marketing, c'est du social, c'est le fun. Donc, pas la peine de sécuriser. Mais comme ça reste des comptes en ligne, ben, faut évidemment appliquer les mêmes pratiques qu'on applique dans des systèmes plus classiques. Et le faire aussi sur les réseaux sociaux, parce que pour bien des PME ou des entreprises, c'est encore plus important les réseaux sociaux que leur site web ou que d'autres services informatiques.
Mais Julien, voyons, c'est pas grave, au pire, tu perds ta page Facebook ou ta page LinkedIn, ta page TikTok corporative, t'appelles le service client, tu prouves ton identité, c'est réglé en deux heures, donc pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à devoir sécuriser ça?
Ce qu'on appelle la garantie de service professionnel, et quand on fait affaire avec des compagnies aussi connues que Meta, on devrait avoir ça.
Oui. Tout le monde le sait, c'est dans leurs règles quand tu t'agrees à toute chose. C'est comme on va vous aider en cas de pépin, tu sais, c'est marqué.
Ah ben absolument. Mais après, ce qu'il faut surtout que les gens comprennent, c'est par exemple, si on prend l'exemple de Meta, oui, c'est vrai, il y a un support. Sauf que le support de Meta, c'est des firmes sous-traitantes qui sont payées par Meta. Et donc, ces gens-là n'ont même pas accès au système interne de Meta. Ils peuvent juste voir ce qui se passe sur les comptes, mais ils ne peuvent poser aucune action. Fait que moi, du coup, j'appelle le support de Meta les messagers. De manière affectée, parce qu'en fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est eux-mêmes soumettre une demande de support aux équipes internes de Meta qui, elles, ont les accès. Donc, le support, c'est pas vraiment un support, c'est des gens qui peuvent voir qu'est-ce qui se passe, tenter de se faire aider par les équipes techniques, et si eux, si on répond non, eh ben, le support peut pas t'aider. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que, voilà, Meta, le support, c'est pas un vrai support, c'est des gens qui vont essayer de t'aider, mais qui eux-mêmes sont soumis à est-ce que les équipes internes veulent les aider ou non. Et ça, c'est zéro problème.
Pour aider à la compréhension, là, on parle de quelqu'un, de PME qui, utilisent leur partie de Facebook, LinkedIn, de page entreprise pour se faire connaître parce que évidemment c'est moins cher qu'un site internet, c'est plus facile à déployer, il n'y a pas besoin de connaissances. En plus, on l'a tous fait à la maison, même ma mère a une page Facebook. Enfin, hein? Vous voyez, on devrait tous être capables d'y arriver. Là. Et donc là, on parle de cas où justement il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et là, on s'est fait isoler de nos comptes. Hein.
Ah oui, bah, c'est ça, moi, des histoires d'horreur, j'en ai tous les jours, mais c'est vrai que des comptes personnels, ça, c'est de plus compliqué à récupérer. Mais les entreprises qui ont une page professionnelle, c'est un peu le même principe. Si t'es piraté, qu'on te vole ta page et que le hacker s'amuse à publier n'importe quoi ou du contenu qui enfreint réellement les règles de Meta et que Meta bloque ta page en disant t'as enfreint les règles, bah, même si c'est la faute du hacker avec ses actions sur ta page, pour Meta, c'est ta page qui enfreint les règles, donc c'est ta page qui va être bloquée. Et là, même si tu le contestes, ils vont dire, ben non, tu as enfreint les règles, et ils vont pas te faire comprendre qui a posé les gestes ou qui a publié le contenu qui était dérangeant. Et ça, le gros problème, c'est que moi, il y a des piratages où je peux pas aider les compagnies parce que, ben, ils ont pas été assez vite à réagir, et le hacker a le temps de faire du contenu qui enfreint les règles. Donc là, Meta dit, ben non, nous, c'est fini, vous avez enfreint les règles. Et donc, même s'il y a un piratage, ben, c'est à vous à pas être piraté. Et donc là, ben oui, tu viens de perdre ta communauté.
Je me fais volontairement le perturbateur dans la discussion là, mais en fait Facebook c'est quand même sécurisé avec le nombre de gens, le nombre de personnes qui travaillent, avec toutes ces plateformes-là, elles sont sécurisées. Comment ça se fait que les hackers rentrent dedans là? Ils font pas d'efforts, ils ont pas de budget de sécurité, ils font pas de pentest chez Facebook.
Ah, c'est des bons arguments. Alors, écoute, mais en fait, oui, il faut aussi comprendre. C'est qu'en effet, mais on peut parler de Meta, mais LinkedIn, c'est pareil, TikTok, bon, Instagram, tous ces géants-là, eux, leur sécurité interne est blindée. Est-ce que souvent, les piratages, en effet, malheureusement, ou le vol de compte, c'est pas eux qui ont eu un problème d'accès ou qui ont eu une fuite. c'est la personne elle-même qui s'est mal sécurisée, c'est la compagnie qui a pas mis en place les bonnes pratiques de sécurité. Comme j'aime bien dire, toutes les plateformes comme Meta, ils donnent tous les outils pour que tu puisses te protéger. Si tu les mets pas en place et que tu perds tes comptes, bah, désolé, mais c'est de ta faute. Les gens aiment pas faire dire ça, mais c'est la réalité. Alors, les suspensions pour des raisons absurdes, parce que l'algorithme s'est trompé, ça, c'est un problème. Et là, c'est la faute de Meta, entre autres. Et là, personne peut se prémunir d'être suspendu pour une erreur. Par contre, tout ce qui est perte d'accès de compte, ça, c'est piraté, c'est la faute des gens. C'est pas Meta qui s'est mal sécurisé. Et c'est pour ça qu'en effet, ben, Meta, ils offrent pas de support efficace. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de le faire si c'est de ta faute? C'est là que ça peut porter un peu à débat. Mais c'est une fois que tous les outils sont mis à disposition, c'est à toi de les mettre en place.
J'ai posé la question parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent « Parfait, mes comptes des réseaux sociaux, je les utilise, je les ai protégés comme mes comptes professionnels. J'ai des mots de passe compliqués, différents, j'ai besoin de mots de passe, le MFA. » Mais qui a accès à vos réseaux? Est-ce que vous avez une agence marketing, plusieurs employés? C'est qui a accès à vos pages? Peut-être que votre compte personnel, vous, il est béton. Mais si vous avez donné un accès à quelqu'un qui utilise les mêmes mots de passe partout, qui déverrouille pas son téléphone, vous allez vous faire compromettre pareil. Donc, c'est des questions à se poser. Qui?
C'est un très bon point. La revue d'accès sur les réseaux sociaux, c'est encore plus important. Et tout à fait, beaucoup de compagnies font affaire avec des agences marketing pour gérer leurs réseaux sociaux. C'est parfait. Une fois que le mandat finit, retirez-leur leur accès. Ils travaillent plus avec vous. Ils ont plus besoin de garder leur accès à votre page Facebook ou votre compte Instagram. Ils travaillent plus pour vous. Et pareil, quand t'as un employé qui quitte, c'est bien beau d'avoir un processus interne qui te dit on récupère le portable, on ferme le compte Microsoft, parfait. Et les réseaux sociaux, est-ce qu'on ferme l'accès ou pas? Ben moi, le nombre de compagnies que j'ai vues qui ont aucun process interne pour la partie réseaux sociaux, ben du coup, il y a des employés qui quittent et qui gardent leur accès à la page de compagnie de 2 ans après. Oui, parce que dans le process de départ d'employé, ils n'ont pas inclus la partie réseaux sociaux, alors qu'ils savent très bien qu'ils en ont. Et donc là, ben, souvent en fait, c'est la personne elle-même, si elle est pas de, c'est à la faute de mauvaises intentions. Mais 2 ans après, son compte est compromis. Et tu n'avais pas enlevé l'accès à ta page pro, mais c'est peut devenir la porte d'entrée pour les pirates juste parce que tu n'as pas retiré l'accès. Alors, si tu avais fait, c'était dans tes process, ben, tu viens de sauver ta page d'entreprise. Et ça, en effet, c'est beaucoup de gens ne le font pas. Puis l'autre aspect, c'est de dire, ben, la stagiaire qui fait des publications, qui gère les commentaires sur ta page Facebook, ne devrait pas être admin de ta page. Elle n'a pas besoin pour son travail d'être admin. Mais ça, c'est le gros problème des compagnies. Tout le monde est admin de tout. Ben, le rôle d'administrateur, ça devrait être critique. Ça devrait être seulement les personnes qui en ont réellement besoin. Pas la stagiaire qui fait des publications.
Le problème est plus profond que ça. Et Julien a tout à fait raison. C'est ce qu'on voit en entreprise. Et puis, c'est là, dans nos missions, on explique qu'il faut avoir cette bonne hygiène-là. Et ceux qui n'ont pas la bonne hygiène sur les médias sociaux, c'est que probablement, ils n'ont pas fait la bonne hygiène aussi déjà à l'intérieur. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas le faire sur les médias sociaux si ce n'est pas déjà fait de base. Donc, ce que j'entends...
Ou c'est pas les TI qui gèrent. C'est aussi la problématique. C'est que souvent, le marketing est uniquement géré par l'équipe marketing. Les réseaux sociaux sont uniquement gérés par le marketing. Les TI disent « j'ai absolument rien à faire avec ça ». Ils ont peut-être, eux, mis en place des bonnes pratiques dans le reste, mais ça tombe dans les cracks, les réseaux sociaux. Mais pourtant, et ça, j'aime toujours le dire à nos amis TI, c'est pas vous qui gérez Facebook ou LinkedIn, mais croyez-nous que le jour où va y avoir un problème, c'est qui qu'on va appeler? C'est Billy.
Mais ça fonctionne quand t'es admin. Ça marche.
Ah ben voilà, ah oui, ça, tout à fait, quand t'es admin, tout fonctionne. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai déjà vu des grosses compagnies qui avaient en place un interne password manager, mais le marketing avait son fichier Excel pour tout le mot de passe des réseaux sociaux. Et tu te dis, mais attends là, vous mettez en place une pratique, mais vous n'êtes pas foutu d'aller vérifier si c'est utilisé pour tout. Ah ben voilà, donc moi, il y a plein de business où ils ont en place des bonnes pratiques à l'interne, mais le marketing, ils ont leur fichier Excel dans leur drive.
Ça rejoint encore une fois la notion de reconnaître la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui génère de la valeur? Et à mon sens, tant qu'on n'arrive pas à reconnaître ça, et c'est pas le jour de l'accident qu'il faut se dire « Oh là là, c'est super important !» C'est de prendre un peu l'exercice pour se dire « Ok, est-ce qu'on doit donner un petit peu, beaucoup, passionnément d'amour dans ce qu'on fait ?» Et puis mettre les technologies ou en tout cas les processus pour éviter de se trouver mal pris. Parce que là, on n'est pas allé. Là, tu nous disais, c'est compliqué d'appeler les messagers pour le support, mais ça doit être tout un parcours du combattant pour prouver qui on est là, et puis récupérer ses accès.
Ah oui, bah, tu vois, mais j'ai aussi un cas pratique qui est arrivé il y a littéralement 2 jours. Il y a une personne qui m'a écrit. Elle travaille en nutrition. Donc, à son compte, elle aide des gens en nutrition. Elle a une page Facebook créée en 2013 de 10 000 abonnés. Et son compte Facebook a été compromis. Et le pirate a fait des actions qui ont entraîné la suspension de son compte. Et donc là, ben, son compte est bloqué. Donc sa page pro de 10 000 abonnés est aussi bloquée. Et là, du coup, moi, je pourrais pas l'aider. Et là, du coup, la personne vient potentiellement de perdre 10 000 abonnés. Ben, comme tu dis, c'est quoi la valeur? Ben, pour une personne qui avait une page créée en 2016 de 10 000 abonnés, qui a son compte, à mon avis, la valeur de son entreprise, peut-être que 90% passe sûrement par sa page Facebook. Et donc là, enlever dans son cas la valeur, ben, c'est
les marques fonctionnent là-dessus. Les deals qu'on fait, c'est par rapport à ton nombre d'abonnés. Et là, dans ce contexte-là, c'était une page pro pour elle, mais comme ça reste une page personnelle, généralement, les pages d'influenceurs ou de coach restent des pages perso, fait que là, le processus est quasiment impossible.
En fait, elle a une page pro, une vraie page pro, mais comme son compte perso a été bloqué, bah même si moi, j'ouvre une deal avec Meta, ils vont me dire, comme le compte perso qui admine la page a été bloqué, on refuse la demande. Parce que maintenant, dans leur processus, bah oui, ton compte est bloqué, ils vont refuser. Donc là, elle peut mettre sa page, elle a son compte, elle a perdu 10 000 abonnés. Eh ben, mais comme dit Dominique, souvent, tu vas le réaliser quand c'est trop tard. Mais juste te dire, bon, tu sais, que ma page Facebook, compte Instagram, quand est-ce que je l'ai écrit? Combien d'abonnés j'ai? Ou juste combien j'ai mis d'argent pour bâtir cette communauté, cet engagement? Combien je mets par mois si je paye une agence ou je paye à l'interne des gens en marketing? Ben, tout cet argent qui est dépensé, tu peux le perdre en un clic. Ben, la valeur, en fait, c'est là, la valeur. C'est au-delà de l'image que ça peut nuire. Si tu recommences de zéro ta communauté, un autre exemple, c'est le parc Safari qui a été piraté en 2023. Ils avaient 110 000 abonnés sur la page Facebook, mais la page a été fermée par le pirate. Ben, ils ont perdu, la page, eux, ils avaient décrit en 2008. Ben, ils ont perdu 110 000 abonnés. Et trois ans plus tard, en date d'aujourd'hui, ils sont rendus à 5 000 abonnés. Ben, ils ont perdu une énorme communauté qu'ils ne pourront jamais rebâtir. Bon, ben, ils font encore des ventes avec les billets, mais il y a clairement moins de gens qui les voient passer, qui récemment acheté des billets parce qu'ils auraient vu passer une publication ou une annonce pour un nouvel animal qui est arrivé au zoo, peu importe quoi. Et même les gens en marketing disaient, ils avaient fait une entrevue et ils disaient, avant le piratage, on avait une vingtaine de demandes de messages privés par jour. Oui. On est rendu à 2-3 par mois quoi. Parce que dès que tu as ta communauté, ben, les gens ne te voient plus apparaître, donc ne pensent plus à toi, puis ben, du coup, tu oublies un peu quoi.
5.5. 5.5 000 par Safari, ce que je coupe, je voulais juste préciser l'information.
Ils en avaient plus de 100 000 avant. Bon, ben,
vous avez compris que c'est pas moi qui devais compter, donc ça c'est parfait. Et je me dis, ok, les processus, les revues d'accès, supprimer ceux qu'on n'a pas besoin d'y aller. Est-ce qu'il y a des mesures magiques qu'il faudrait faire à tout prix dans les médias sociaux là? La chose que toi, peut-être, tu vois dans tes quotidiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas se faire mal prendre? Parce que honnêtement, de ce que tu racontes, on n'a pas envie de parler avec le support qui n'existe pas.
Ben écoute, voilà, ben c'est écoute, en effet, de mettre le double facteur d'authentification absolument partout sur ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte LinkedIn, mais aussi l'adresse courriel qui est associée à ton compte. Là, c'est aussi une porte d'entrée vers ton compte. Bon, dans le cas de Facebook et LinkedIn, ben, de ne pas avoir un compte partagé par plusieurs personnes, parce que souvent, ben, le compte n'est pas sécurisé, mais ça enfreint aussi les règles des plateformes. Donc, si tu as un compte Facebook qui s'appelle le nom de ta compagnie et que tout le monde en marketing l'utilise, ou que tu l'as appelé Astro le robot parce que tu ne veux pas prendre ton compte personnel, ben, ça enfreint les règles. Donc, si ton compte est bloqué, ben, Meta va dire que le compte n'est pas à ton nom, donc on refuse de t'aider. Donc là, tu peux perdre accès, en effet, à ton entreprise. Donc, en effet, avoir un compte qui a ton nom et ton vrai prénom, c'est aussi essentiel sur les réseaux sociaux. Et au-delà, ben, de mettre le double facteur, les codes de secours sont aussi un outil assez important à récupérer, ce qui permet de contourner le double facteur si tu, exemple, tu le perds ou la personne qui l'a configuré part, par exemple, et pour bien des compagnies, l'employé qui avait créé le compte est parti, ils n'avaient pas leur code de secours, il répond plus, donc là, la compagnie se ramasse bloquée, à plus pouvoir accéder à son propre compte parce qu'ils n'avaient pas pris les codes de secours. Ben, ça, c'est un outil que toutes les plateformes ont et qui permet de, par exemple, dans le cas d'une business, que si quelqu'un quitte, ben, au moins, tu ne perds pas accès à ton compte si tu n'avais pas sauvegardé le double facteur efficacement. Donc, c'est plein de petits outils comme ça qui, en faisant ça, en mettant du coup un compte réel, un compte d'entreprise, ben, là aussi, tu t'assures de le bien sécuriser, ce qui est mail qui est associé. Tu as un portefeuille business qui est une plateforme de Meta qui permet d'être vu par Meta comme une entreprise et non comme un particulier. Ça aussi, ça peut t'aider à avoir plus d'aide pour le puzzle que tu peux avoir. Alors que si tu as une page professionnelle, mais qui est juste associée à ton Facebook personnel, ben, c'est pas dans un portefeuille business, mais tu considères que tu es un particulier et c'est une page personnelle de vacances. Quoi. Alors, de prendre les outils de gestion mis par ces plateformes-là permet aussi d'avoir plus d'aide et de mieux gérer tes actifs, de les centraliser au même endroit. Et c'est toutes ces choses-là qui permettent de prévenir 99% des attaques et de ne pas perdre un accès juste parce que tu as mal contrôlé qui avait accès à quoi.
Est-ce qu'on est en train de dire que le MFF est important? Est-ce qu'on est en train de dire que bien mettre le deuxième facteur est quelque chose d'important en 2025? C'est ça qu'on dit, right?
Visiblement. Ah.
Je suis content que tu l'amènes, Julien. Merci beaucoup, Julien.
Ouais, ça c'est cette nouvelle tendance-là, on va clore ce volet-ci parce qu'on a beaucoup de choses à dire clairement. Et on veut vous laisser digérer ça par petites bouchées. Merci de cette intervention-là, c'est super intéressant. Et justement, le MFF est un élément essentiel. Et retenez que c'est l'élément primordial. Merci à vous quatre. Parce que là, je sais compter, contrairement à Dominique.
Merci beaucoup à tous.
Merci beaucoup,
Julien. Et bravo pour ce que tu fais. T'es quand même la seule personne au Québec qui sauve les entreprises qui n'ont pas mis leur MFF.
Ah oui, mais on est là pour eux. Mais bon, en effet, protégez-vous avant, c'est quand même beaucoup plus simple.
Ça coûte moins cher, c'est moins de stress, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Fait que...